Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SBS French. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger avec une réalisatrice de documentaires française, mais qui vit en Australie depuis déjà quelques années. Et j'ai eu personnellement le plaisir de voir son deuxième documentaire, un documentaire intitulé A Little Back for Me, il y a quelques jours de cela, dans le cadre d'un festival documentaire qui se passe à Sydney. Et je l'ai trouvé tellement bien que j'ai eu envie d'échanger avec elle. Bonjour à vous, Flore Valerie Rado.
Bonjour Grégory.
Alors, ce documentaire, comme je le disais, il m'a beaucoup plu. En fait, il se focalise sur votre plus jeune fille, Léonore, et on découvre à travers vos yeux, mais aussi à travers les siens, comment elle découvre la puberté, les règles, et comment les appréhender, comment s'y préparer. Comment vous est venue l'idée de ce documentaire ?
Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que le concept du documentaire, c'est pas de faire un guide sur la puberté. C'était un peu le risque dans lequel je voulais pas tomber. C'était de partager une expérience sans donner de conseils, mais simplement permettant de poser des questions aux téléspectateurs. Je sais pas si on les appelle des téléspectateurs et spectateurs. De regarder quelque chose qui peut-être les inspirera à changer la manière dont ils approchent le côté secret de la puberté. Et en fait, l'idée m'est venue d'une expérience assez malheureuse du premier jour de mes règles, qui s'est super mal passée parce que ma maman avait oublié de m'en parler. Donc, je me suis retrouvée couverte de sang chez ma correspondante allemande, dans la ville de Mainz am Rhein, à 14 ans, en me demandant « Mais pourquoi est-ce que je saigne comme ça? Pourquoi j'ai autant mal? Est-ce que je vais mourir ?» Et en fait, en devenant documentariste, que ce soit par l'intermédiaire de la photographie ou des films que j'ai faits, j'ai beaucoup filmé des femmes. Et c'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de nos histoires de femmes, de grandir, de devenir une femme, etc. Et j'ai découvert voilà, que beaucoup de femmes, beaucoup de petites filles, découvrent leurs premières règles avec horreur. Et donc, je me suis dit, il y a un sujet là. Et puis ensuite, j'ai trois enfants, dont deux filles. Et mon aînée, j'avais l'impression d'avoir fait un job génial avec elle, en lui parlant, lui expliquant un petit peu de quoi il s'agissait, en l'envoyant à l'école avec un petit sac, avec des produits pour les règles, et puis c'était tout. Et puis la deuxième fille est arrivée, je me suis dit, oh là là, c'est en fait, j'ai fait ça super mal, c'est affreux. Mon fils aussi, je lui ai parlé de la puberté, mais pas vraiment en détail, enfin, ça vient d'une grosse culpabilité, voilà.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites ce documentaire avait absolument pas pour but de servir de guide, et pourtant, moi, qui suis un garçon, fils unique, j'ai pas grandi avec des filles autour de moi et on m'a pas parlé des règles au sein du foyer familial. Je me suis dit quand même que ce documentaire, parce que ça reste un sujet malgré tout, peut-être pas tabou, mais en tout cas sensible, qui est, que les parents abordent parfois avec difficulté avec leurs enfants, qu'il avait sans doute une vertu pédagogique malgré tout, justement à dédramatiser ce moment et montrer une approche, en l'occurrence la vôtre, sur comment en parler avec ses filles. Vous n'y avez pas pensé du tout que peut-être ça pouvait servir malgré tout à d'autres parents ?
Alors si, c'est au cœur de la création du film, mais ce que je voulais dire par là, c'est que je ne voulais pas en faire une espèce de manifeste de « voilà, moi je suis géniale, je suis une maman qui a fait ça super bien, regardez-moi, etc. » C'était pas l'idée. Mais je me suis dit, comme je l'ai fait super mal, je vais essayer de le faire bien cette fois-ci. Et en fait, la première idée de film, c'était de faire des interviews de femmes sur le premier jour de leurs règles pour voir si elles ont eu la même expérience que moi et mixer tout un tas d'interviews. C'était un truc assez journalistique finalement. Et puis ensuite, je suis entrée à l'école de cinéma nationale australienne qui s'appelle AFTL, qui est un peu la FEMIS australienne. Et en plongeant dans mon sujet, je me suis dit, en fait, ce serait beaucoup plus intéressant de le voir du point de vue de ma fille, qui avait 11 ans à l'époque, et du mien. Et de voir ce qu'on peut faire avec une approche plus personnelle et plus expérimentale que des interviews successives. Et donc, le résultat est finalement assez didactique. En montrant surtout les choses que j'ai pas bien fait, peut-être, et les choses que j'ai essayé de bien faire, son dégoût de pas mal d'éléments de grandir, la peur d'avoir des seins, par exemple, découvrir les différents ustensiles pour attraper le sang des règles, elle a trouvé ça assez dégueulasse. Et donc, c'était quelque chose que je voulais montrer aussi, le côté l'inconfort, parce que vous disiez, c'est pas tabou, ou ça l'est, en fait, on est encore sur le dans un sentiment tabou, ça l'est quand même vachement. Parce que à chaque fois que j'en ai parlé à des gens tout au long du processus de faire ce film, la plupart des gens mettent la voix, en fait. Même des gens qui sont super cool, qui sont assez à l'aise avec leur corps. Ah oui, mais alors mon expérience, alors on baisse la voix parce que c'est un peu embarrassant. Donc notre idée, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas à toute la famille, même au grand-père, enfin, des gens à qui on n'oserait pas parler de ses règles, de ses seins ou des poils pubiens, ils vont pousser, des choses comme ça. Donc on a amené toute la famille autour de nous dans la maison et on leur a posé des questions pour pouvoir essayer de rendre le sujet beaucoup plus facile. Et en fait, ce moment de quelques minutes de souffrance, parce qu'il y a une certaine souffrance à la gêne, finalement rend la vie beaucoup moins gênante pendant les années qui viennent. Donc ma fille, je pense, elle est très à l'aise avec son corps maintenant, grâce à ces moments de gêne assez extrême qu'elle a vécu et qu'on voit dans le film.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de membres de votre famille qui apparaissent dans le documentaire, qui est du coup particulièrement intime. Il me semble que toutes les scènes sont tournées déjà chez vous. On vous voit vous, bien sûr, on voit votre fille Léonore, mais on voit aussi sa grande sœur, son frère, les grands-parents, un peu tout le monde. Sur un sujet qui, vous le disiez, reste parfois difficile à aborder pour certains, est-ce que ça a été difficile de convaincre toute votre famille de participer à ce documentaire?
J'ai de la chance parce que je pense qu'ils me font confiance. Et en fait, il y a deux choses. Alors non, ça n'a pas été difficile parce qu'ils me font confiance, mais aussi il y a la présence de ma caméra en famille depuis beaucoup d'années. Je suis toujours là à prendre des photos et à prendre des morceaux de vie, des morceaux de films depuis très longtemps dans ma belle famille australienne, dans ma famille en France, et puis avec mes enfants. La seule chose, c'est que j'ai apporté des lampes pour être sûr que dans un cinéma on voit bien les gens et que ça soit chouette sur l'écran. Et du coup, là, c'était un peu plus intimidant d'avoir un micro et des lampes. Mais je pense que du point de vue du consentement des membres de ma famille, c'était quelque chose qui allait de soi pour eux de me faire confiance et j'en suis très reconnaissante. Mais il y a eu aussi un travail de consentement très officiel, particulièrement avec ma fille Léonore, qui est le personnage central du film. Et dans l'équipe, on a recruté une coordinatrice d'intimité, qui est un nouveau rôle dans le cinéma, et plutôt le cinéma de fiction. Et j'ai pensé que ce serait une très belle addition à l'équipe, parce que c'est une femme qui s'appelle Michaela Caratini, et qui était à Sydney à ce moment-là, entre Sydney et Berlin, où elle travaillait anciennement dans le domaine de la traite des êtres humains, dans un domaine très très dur, et notamment auprès d'enfants. Et donc elle a appris dans ces circonstances assez douloureuses ce que c'était que le consentement des enfants. J'ai beaucoup travaillé avec elle et j'ai fait mon mémoire de thèse de l'école de cinéma sur l'éthique du documentaire, parce que je me sentais très très mal à l'aise de mettre ma fille et ma famille sur grand écran. Et notamment mes enfants, dont le consentement était quand même très biaisé par le fait que la personne derrière la caméra est leur maman. Je pense que le consentement dans le documentaire est toujours très difficile à obtenir parce qu'on a une force en présence de la caméra et du fait d'être réalisateur qui fait que la personne de l'autre côté de la caméra n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est pas eux qui vont couper le film, c'est pas eux qui vont décider des questions, c'est pas eux qui vont décider du produit final. Et donc il y a vraiment voilà, un déséquilibre, un rapport de force qui est assez déséquilibré. Et donc j'ai voulu écrire et rechercher vraiment de manière approfondie sur cet aspect éthique. Et donc on a mis en place un protocole d'éthique avec les membres de la famille et l'équipe de tournage. Et donc l'idée c'était de rééquilibrer les forces en présence pour leur donner, voilà, une espèce de pouvoir dans le narratif, voilà. C'est pour ça que je pense aussi, j'ai été plus à l'aise d'interviewer tout le monde et ils étaient aussi à l'aise de donner cette confiance.
Alors, vous le disiez, hein, Léonore, votre fille cadette, c'est le personnage principal de ce documentaire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et vous me direz d'ailleurs si ça a contribué au fait que l'ambiance sur le plateau se passe bien et tout ça, mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre documentaire et dans son approche, c'est que Léonore n'est pas juste le sujet, et même si en soi, enfin, c'est déjà très très amusant et émouvant de la suivre. Hein, je pense notamment à au moment où vous lui montrez ce qui se passe quand on imbibe un tampon hygiénique de liquide, eh ben, ça gonfle et on voit qu'elle est complètement paniquée à cette idée-là. Voilà, ça amène le sourire, ça amène même les rires. Je les ai entendus dans la salle quand j'étais là. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle n'est pas juste donc sujet du documentaire, mais elle y participe aussi activement presque comme une journaliste, puisque à un moment, c'est elle qui pose des questions aux personnes de son entourage, ses grands-parents, ses frères et sœurs, et ce fameux cousin dont le nom m'échappe, mais qui a à peu près le même âge qu'elle et qui a l'air totalement ignorant de toutes les choses liées à la puberté, en particulier chez les filles, qui donne aussi lieu à tout un tas de scènes assez cocasses. Voilà, ma question, c'était ça. L'idée de ne pas en faire simplement un sujet, mais aussi une participante au documentaire, c'était important. Est-ce que ça a aidé également à surmonter cette crainte que peut-être c'est juste votre fille qui écoute et qui suit les ordres de sa maman, pour le dire de façon un peu brutale?
Vous avez tout à fait raison. En fait, c'était la clé de voûte de notre protocole éthique. C'était de lui donner les pouvoirs. Donc, elle avait des pouvoirs. Son pouvoir majeur, c'était son pouvoir de veto. Donc, mon idée, c'était d'imposer à l'école du cinéma et mon équipe un non absolu dans le cas où ma fille n'était plus d'accord de participer, ou tout autre participant d'ailleurs, mais surtout ma fille, parce que c'était elle le personnage principal. Donc, ça, c'était son premier pouvoir. Son deuxième pouvoir, c'était un pouvoir de direction, en fait, et donc de réalisation. Elle a le titre de co-réalisatrice et elle a vraiment utilisé ce pouvoir de réalisation. C'est elle qui a écrit pratiquement toutes les questions des types d'interviews qu'on voit quand elle pose des questions à ses frères et sœurs, à son papa et à ses grands-parents. C'est elle qui a écrit toutes les questions. Les seules questions qu'elle n'a pas écrites, c'est celles que je lui pose moi. Un petit peu de manière impromptue. Et donc, du coup, lui donner la caméra, lui permettre de faire quand elle veut, de prendre la caméra et de me poser des questions, ce qu'elle a fait. Et du coup, c'était hyper difficile pour moi de me retrouver de l'autre côté. Et ça m'a imposé de me mettre dans ses chaussures, de comprendre dans quelle position je la mettais, elle. Donc, j'étais mal habillée, je n'étais pas préparée. Je me trouvais horrible sur l'écran et j'avais l'impression d'une représentation qui n'était pas à mon avantage. Mais j'ai accepté le deal parce que c'était un peu le deal que j'avais avec elle. Donc, elle prenait la caméra et elle me posait des questions.
Ok, ça se voit totalement. Enfin, on voit la complicité entre vous deux, et on voit surtout le fait que elle y prend du plaisir. Alors, ça fait quasiment 15 minutes qu'on parle de ce documentaire, A Little Back for Me, et je mets à la place des auditeurs et de se dire, ok, ça a l'air super, mais où est-ce qu'on peut le voir? Moi, donc, c'était dans le cadre d'un festival de documentaires qui s'est terminé il y a déjà une dizaine de jours. Si les gens qui nous écoutent souhaitent voir votre film, quelles sont les prochaines occasions, pour le faire?
Alors, c'est toujours la question qu'on pose, qui est une question difficile quand un film sort sur les grands écrans, parce que la première étape de ce processus, c'est la tournée des festivals. Donc, on a commencé par Saint-Tropez. Donc, la première mondiale s'est passée à Saint-Tropez. C'était vraiment très, très drôle de le montrer aux Français. C'était un public de jeunes. C'était vraiment super sympa. Donc, on a été sélectionné par le festival de Saint-Tropez. Et puis, notre deuxième festival, c'était Antenna. Donc à Sydney, le festival du documentaire, et on a présenté le film. On espère être dans plusieurs autres festivals, mais bon, il faut attendre leur réponse. C'est tout un processus. Donc dans les prochains mois, on va attendre de voir ce que ça donne, si les gens aiment notre documentaire. Il a une durée qui est un petit peu compliquée parce que c'est un court métrage, mais il fait 30 minutes. Et donc, par exemple, on n'a pas pu le présenter à Cannes parce que Cannes n'accepte pas les courts-métrages documentaires de 30 minutes. Donc, il y a pas mal d'endroits où on n'a pas pu le présenter à cause de ça. En fait, ce qu'on aimerait pouvoir faire à terme, c'est de le montrer dans les écoles, que ce soit des écoles en France, quitte à faire un doublage, ou des écoles en Australie, parce qu'on pense que le pouvoir didactique du film est plus fort finalement quand on n'a pas eu envie d'en faire un film didactique que quand on veut vraiment faire un film de prof, démonstratif, etc. Donc, pour répondre à votre question de manière précise, pour pouvoir savoir quelles sont les prochaines étapes, les prochaines projections, il faut suivre mon Instagram, parce que c'est là que j'explique où ça se passe. Voilà. Et puis, ça finira certainement en ligne quelque part, je l'espère en tout cas, pour que tout le monde puisse le voir.
Un dernier mot pour parler un petit peu de vous. Je l'ai dit en introduction, vous êtes parisienne d'origine, mais vous avez une famille australienne, un mari australien et des enfants franco-australiens. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre parcours? Depuis combien de temps vous vivez en Australie? Qu'est-ce que vous y faites quand vous ne tournez pas de documentaire? Voilà.
Ça fait à peu près 15 ans que j'habite en Australie. Au début, avant le Covid, j'ai voyagé beaucoup entre la France et l'Australie. Mon activité principale, c'est d'être photographe et d'être réalisatrice de films, de documentaires. Donc, quand je ne fais pas des films qui sont présentés dans les festivals, je fais des films qui ont une ouverture plus directe vers les spectateurs. Parce que maintenant, l'endroit où sont les écrans, c'est plus dans la main qu'autre chose. Donc, je fais des petits films. Ma spécialité, c'est de faire des petits films sur les artistes et les artisans australiens. Donc, par exemple, les gens qui fabriquent les planches de surf, les gens qui fabriquent du fromage, des peintres, des potiers, enfin, des fleuristes, des gens qui, voilà, qui font des choses avec leurs mains. Ça me passionne. Donc, je fais des petits films pour eux de manière commerciale, c'est-à-dire qu'ils me payent ou les galeries me payent pour faire ça. Et donc, je fais de la photographie documentaire aussi. Et voilà, la vie en Australie me plaît beaucoup. J'aime beaucoup aussi la vie parisienne, donc j'ai mon cœur qui est un peu entre les deux. J'aime bien pouvoir avoir le luxe de voyager quand c'est possible, ce qui n'est pas très souvent.
Ok. Un dernier point que je voulais aborder avec vous. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets de documentaires dans les tuyaux?
Oui, après avoir fait une école de cinéma en se sentant une pression d'augmenter voilà, le calibre, donc. En fait, je pense que la première étape pour moi, c'est d'analyser voilà, cette expérience formidable d'avoir été dans une école de cinéma et formidable d'avoir eu un film ou deux maintenant qui vont se balader dans les festivals du monde entier. Ça, c'est vraiment génial. Et j'aimerais faire des mini-documentaires qui seront plus en ligne pendant une période de temps, qui vont me permettre de m'entraîner pour le long métrage de mes rêves qui bout dans mes marmites. Voilà, et j'ai besoin, je pense, d'essayer de comprendre le nouveau paysage de l'audiovisuel et du cinéma mondial, que ce soit en Australie ou en France. Qui sont les gens qui regardent? Comment les atteindre? Et c'est plus la même chose. Donc, j'ai envie d'analyser ça et d'expérimenter. Ce qui m'intéresse, c'est le changement positif et notamment pour les femmes. Ce sont les sujets qui m'intéressent le plus.
Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Flore Valérie Radeau. Alors, votre compte Instagram, c'est Flore Valérie Radeau. Il faut taper ça dans le moteur de recherche pour vous trouver. Et plus spécifiquement sur le film dont on vient de parler, c'est A Little Bag for Me Film. Merci beaucoup, Flore. Bonne continuation pour la suite de vos projets. Et encore une fois, ça a été un grand plaisir de voir votre documentaire.
Merci beaucoup, Grégory. C'est super.